Bonjour à tous et à toutes. Au micro, Paul Ozzy Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter Chronique pour la paix, une émission sur Radio Shalom. Chers auditeurs, on se bat en ce moment à Jérusalem pour savoir ce qui est raisonnable ou pas lorsque le travail législatif s'effectue à la Knesset. La coalition gouvernementale veut changer les règles du jeu. Qui décide qu'une loi est raisonnable, conforme au droit ? La Cour suprême d'Israël, garante de l'ordre constitutionnel et de l'état de droit, ou les députés et ministres qui veulent exercer leurs prérogatives sans entrave. Aujourd'hui, c'est l'extrême droite suprématiste religieuse qui est au pouvoir et veut imposer ses conceptions rétrogrades. Mais si demain la gauche israélienne revenait au pouvoir, qu'en serait-il ? Ce serait à son tour d'imposer ses conceptions et sans limite ? Les citoyens israéliens comprennent largement ce qui est en cause. Ils se mobilisent à un niveau incroyable contre le changement de régime que la coalition de Netanyahou veut imposer de force à tout le pays, sans débat et sans concertation ni consensus. Ils étaient 500 000 à défiler dans tout le pays hier et avant-hier, dont 150 000 à Jérusalem, capitale d'Israël. Démocratia scande civil et militaire, de Metula jusqu'à Eilat. Netanyahou va-t-il les entendre un jour ? Il y a toutes sortes de gens et de groupes sociaux qui se joignent depuis 8 mois aux manifestations incessantes contre le coup de force politique. Pas seulement des gens de gauche, comme fabulent certains, mais aussi des individus qui croient au ciel ou qui n'y croient pas. Parmi eux, le Rav Daniel Epstein, qui a récemment pris la parole au cours d'un meeting à Jérusalem pour défendre la démocratie israélienne. Pourquoi un rabbin orthodoxe se lève et déclare, je le cite, « Nous devons nous opposer aux lois dont le but est de légitimer la tyrannie. Nous allons le lui demander, il est avec nous. » Le Rav Daniel...
Bonjour
Rav Daniel Epstein. Le Rav Daniel Epstein est né en Suisse. Il a mené ses études à Strasbourg. Il est docteur en philosophie. Il dirige l'Institut Matan à Jérusalem, un centre d'études juives de haut niveau destiné aux femmes. Il est aussi le traducteur de l'œuvre d'Emmanuel Levinas en hébreu. Est-ce que c'est clair, monsieur le rabbin, ce que je dis de vous ? Est-ce que c'est juste, votre biographie ?
Oui, à part que je n'ai pas fait de doctorat.
Ah bon ?
J'ai simplement terminé des études de philosophie juste avant le doctorat pour monter en Israël.
D'accord.
Et exercer ma carrière d'enseignant.
Très bien. Donc, c'est
pour moi, les titres n'ont aucune importance.
Oui, d'accord. L'essentiel, c'est un cœur intelligent, comme disait le roi Salomon.
Alain Finkielkraut.
Ouais. Voilà, Alain Finkielkraut, en l'occurrence. Oui, c'est lui qui me l'a appris. Voilà. Alors, Daniel Epstein, Rav, le 15 juillet dernier, vous avez pris la parole lors d'un meeting à Jérusalem contre la réforme de la justice du gouvernement Netanyahou. Votre intervention a été appréciée et remarquée. Elle circule maintenant sur les réseaux sociaux. Avez-vous l'habitude de prendre la parole lors des rencontres politiques ?
Jamais.
Voilà. Pourquoi un juif orthodoxe se mobilise-t-il contre la coalition au gouvernement ? Après tout, les partis orthodoxes politiques d'Israël font partie de la coalition gouvernementale.
Pour plusieurs raisons. D'abord, je n'ai pas pris la parole en tant qu'orthodoxe, mais en tant qu'être humain. Parce que la résistance à la dictature est quelque chose d'universel. Et je l'ai bien dit dans l'introduction de mon discours, j'ai dit que la morale n'est ni juive, ni chrétienne, ni musulmane, ni athée, elle est universelle. Et c'est au nom de cette morale universelle et de l'éthique qui précède même les lois morales et qui nous oblige à défendre notre prochain et à assurer la liberté et la justice pour tous que j'ai pris la parole.
D'accord. Daniel Epstein, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres rabbins orthodoxes comme vous parmi les opposants qui interviennent en tant qu'hommes,
oui.
Citoyens ?
Étant donné que nous sommes dans la semaine qui précède Tisha B'Av, permettez-moi de pleurer dans mon cœur et de ressentir une profonde solitude au sein de ma communauté. la communauté religieuse, qu'il s'agisse de la communauté orthodoxe et de la communauté qu'on dit nationale religieuse. Non, on n'entend pas de voix de rabbins, mais ça fait longtemps que les rabbins ne s'expriment plus sur des problèmes éthiques, mais strictement sur des problèmes religieux au sens le plus étroit du terme. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à défendre le Shabbat, la cacheroute, l'introduction de Hametz pendant Pessah dans les hôpitaux, mais ne se prononcent jamais sur des questions éthiques, de justice, pour tous, non pas pour leur groupe, mais pour tous. Donc c'est pour moi une source de tristesse.
De tristesse.
Oui, de profonde tristesse.
Mais il y a d'autres rabbins qui ne sont peut-être pas orthodoxes, mais libéraux ou conservatifs, qui s'expriment là quand même. Vous n'êtes pas tout à fait seul.
Oui, en ce sens, oui. Mais ils ne sont pas nombreux, ils n'ont pas l'influence de ces autres rabbins, et surtout, ils ne sont pas au pouvoir. Parce qu'il faut bien comprendre que la religion est devenue en Israël une affaire politique, et que cela a corrompu la religion, l'association avec la politique, et le goût au pouvoir, et ce qu'apporte le pouvoir.
Ce que vous déplorez, c'est que la religion devient un peu une affaire cléricale, et non plus une affaire de mitzvot.
Oui, on peut le dire, ça fait longtemps. Mais c'est pas un peu, c'est-à-dire que véritablement, les rabbins sont des fonctionnaires d'État et ils représentent des intérêts qui sont défendus par les partis religieux au sein de la coalition. Donc c'est de ça qu'ils se soucient, des intérêts sectoriaux, comme on dit en Israël, mixar, non pas de l'intérêt public.
Le bien commun.
Le bien commun, exactement. Ça fait longtemps qu'ils ont oublié, s'ils l'ont jamais connu, cette notion du bien commun qui, éthiquement, repose sur la notion de responsabilité. Nous ne sommes pas responsables juste pour un groupe ou pour notre famille. Nous sommes responsables pour tous.
D'accord.
C'est ça qui est oublié.
D'accord.
Et c'est contre cela que je me suis élevé.
Dans votre intervention à Jérusalem, vous l'avez mis sous le signe de la morale, vous l'avez vu, vous faites la différence entre morale juive issue de la Torah et éthique universelle. Expliquez-nous cette différence. Est-ce une différence ou est-ce que c'est la même chose?
Oui, c'est une différence essentielle que j'ai apprise chez Levinas. Pas morale juive, mais la morale. La morale est quelque chose d'universel parce que chaque parent est tenu d'éduquer son enfant en un sens moral, sinon la société se désintègre. Aucune société n'a pas un certain noyau de règles morales, de codes moraux. Alors nous avons notre code moral, les chrétiens ont les leurs, les musulmans, les bouddhistes, etc. Et ça, c'est pas le point fondamental, c'est qu'il y a ce que va s'appeler une éthique. Qu'est-ce que c'est que l'éthique? Ce sont nos obligations envers notre prochain, qui découlent du simple fait que nous sommes des êtres humains et que notre prochain nous oblige, et essentiellement celui qui est dans une situation de vulnérabilité. Vous voyez, ce qui n'est pas compris, il y a ici une totale ignorance de ce que signifie dans son fond, au sens éthique, la démocratie. Parce qu'on vous entendait répéter sans cesse, mais la majorité a voté. Donc la majorité a le droit, c'est légitime, d'accomplir son programme. Alors il y a ici une double erreur. Première erreur, jamais la majorité n'a voté pour une réforme du système judiciaire. Ça n'a pas du tout été présenté. Donc il y a ici un mensonge. C'est un mensonge, c'est une tromperie. Il y avait une poignée, effectivement, de personnages politiques qui, pour des raisons d'intérêt personnel ou pour leur groupe, complotaient, si vous voulez, ce coup. Mais en fait, ça n'a pas... Bon, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'éthique, c'est une obligation qui repose du fait que nous devons défendre les minorités, les personnes les plus vulnérables. Or, étant donné le système juridique israélien, nous n'avons pas de constitution qui protège ces droits, nous n'avons pas une cour constitutionnelle qui va vérifier les lois. Donc il revenait au tribunal suprême d'être le seul critique qui pouvait faire contrebalancer. Et croyez-moi, contrairement à toute la propagande qu'on entend, la Cour suprême d'Israël a été très prudente dans ses décisions. Mais il y a tout de même de nombreux cas. Je vous cite un tout petit exemple qui a été cité par la presse récemment. Il s'agissait d'une personne qui n'a pas payé ses contributions à la société d'électricité. Et la société d'électricité a voulu lui couper l'électricité sans tenir compte que cette personne était démunie et qu'elle devait soutenir un enfant qui était branché sur un respirateur. Il y a eu ici un acte criminel. La Cour est intervenue, elle a dit qu'il est irresponsable et irraisonnable d'agir de cette façon. elle a interdit à la compagnie d'électricité de cesser de fournir l'électricité. Vous voyez, c'est un tout petit exemple. Ou alors, un constructeur décide de construire un immeuble sur un terrain qui est contaminé. Il n'y a pas de loi qui prévoit ce cas, mais qui dit, vous n'avez... Ça, c'est du simple bon sens. Est-ce qu'il est raisonnable de construire un immeuble sur un terrain contaminé? La loi ne le prévoit pas, le tribunal est intervenu et dit ce n'est pas raisonnable. Donc, vous voyez, il y a de multiples cas qui ne peuvent pas être codifiés, ce sont des situations ad hoc, et sur lesquelles le bon sens devrait fonctionner. Alors quand les politiciens perdent leur bon sens...
C'est la Cour suprême.
Alors c'est la Cour suprême qui intervient. D'accord. Si vous lui retirez ce pouvoir, alors où allons-nous? Qui va défendre les minorités? C'est ça, c'était un slogan qui est revenu dans toutes ces manifestations. Qui défendra les minorités? Qui défendra les populations les plus vulnérables? Qui défendra les femmes? Et permettez-moi, en tant que rabbin, de dire qu'il y a un grave problème. On veut réformer le système judiciaire, mais qu'en est-il des tribunaux rabbiniques? Qu'en est-il des tribunaux rabbiniques pour défendre les droits des femmes devant ces tribunaux, qui très souvent sont défavorisés parce qu'elles sont jugées uniquement par des hommes?
Absolument, c'est un gros problème. Justement, Daniel Epstein, vous affirmez dans votre discours que le peuple d'Israël a l'obligation éthique, on revient sur l'éthique, de protéger l'indépendance de la Cour suprême et de préserver les gardiens de l'institution. Absolument. Mais, est-ce que les juges de la Cour suprême sont au-dessus des lois que le Parlement, c'est-à-dire la Knesset, établit souverainement au nom du peuple? Est-ce que la Cour suprême, les juges, ne se trompent jamais?
Bien sûr que les juges se trompent. Bien sûr aussi que les politiciens se trompent. Bien sûr que les militaires se trompent. Et bien sûr que les rabbins se trompent. Même notre maître, Moshe Rabbeinu, a reconnu s'être trompé. C'est écrit dans la Torah, c'est explicite. Donc tout être humain se trouve. Or, le système démocratique, en France, en Amérique, en Angleterre, dans tous les pays qui fonctionnent de façon démocratique, repose sur un équilibre des pouvoirs, justement pour cette raison, parce que nul n'est infaillible. Bon, donc si vous faites basculer tous les pouvoirs d'un seul côté, que ce soit du côté du tribunal, ou que ce soit du côté de l'armée, ou du côté des politiciens, vous tombez dans un système qui va être immoral, dans une dictature. C'est exactement ça. Je n'ai jamais dit, je le dis d'ailleurs dans mon discours, que les juges sont loin d'être au-dessus de toute critique. C'est évident. Il y a beaucoup de décisions qui, à mon avis, du tribunal, dans leur intervention ou dans leur non-intervention, qui étaient critiquables, hautement critiquables. Mais c'est le cas pour les politiciens et c'est le cas pour l'armée. Donc, si vous cassez cet équilibre où il y a tout de même un contre-pouvoir ou deux contre-pouvoirs, alors où est-ce qu'on va?
Je comprends.
On va dans l'abîme.
Je comprends. Alors vous déclarez aussi, et c'est très fort, nous devons nous opposer aux lois dont le but est de légitimer la tyrannie, le mensonge et la corruption. Vous pensez vraiment qu'il y a un danger de dictature si la réforme de la justice est adoptée? Et franchement, est-ce que les élus, les Khavre Knesset, qui sont élus légitimement par les citoyens, sont-ils tous corrompus?
Non, ils ne sont pas tous corrompus. Le système les corrompt. Le système les corrompt parce que, d'abord, vous avez ce phénomène en Israël. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne en France. Mais en Israël, les chefs de parti, pour la plupart des partis, ce sont eux qui décident qui seront les membres de leur parti. Donc, ce n'est pas du tout, si vous voulez, il n'y a pas de vote pour les députés. Il y a des votes pour un parti. Bon, donc, ça, c'est le premier point. Et si les chefs de ces partis sont corrompus, vous imaginez les choix qu'ils vont faire? Or, vous avez plusieurs exemples. Le Premier ministre qui est en jugement. Ensuite, il y a le fameux Arié Dery, qui lui a été à plusieurs reprises, et il a reconnu lui-même avoir fraudé l'État, menti, fraudé, et qui voulait être ministre des Finances, vous imaginez, enfin quand même. Alors on parle de choses raisonnables ou déraisonnables. Alors c'est là-dessus que ça a chopé, parce que le tribunal suprême a dit « mais ce n'est pas raisonnable ». De nommer aux finances un homme qui est corrompu et qui a volé l'État. Vous voyez?
Oui,
alors,
je comprends.
Lorsque je dis qu'ils sont corrompus, je ne dis pas chaque député individuellement est corrompu. Je dis que le système encourage la corruption et que reprendre à la Cour suprême le droit de critiquer ces nominations va uniquement favoriser ce genre de choses.
D'accord. Alors, Rav Daniel Epstein, toujours... Lors de votre discours, vous avez évoqué quelque chose qui m'a surpris, je dois le dire, la citoyenneté. vous avez dit, et là on pense un peu à, encore une fois, à Alain Finkielkraut, la citoyenneté est une valeur qui nous oblige au sens humain du terme.
Ouais.
Et là, vous évoquez quelque chose qui est très français, vous savez. La citoyenneté, c'est profond en France, c'est République française, citoyenneté, ouais. C'est central. Et puis vous terminez votre discours en français en criant « Liberté, égalité, fraternité ». Monsieur le rabbin, est-ce que vous voulez faire d'Israël une république juive et démocratique ?
On peut le dire, oui. Juive et démocratique. Vous savez, pour moi, et c'est aussi un problème qui est très important à mon avis, on oppose ces deux mots, juif et démocratique, comme si juif n'était pas démocratique et comme si la démocratie était anti-juive.
Parce que ça arrange certains de les opposer, c'est pour ça.
Oui, bien sûr. Mais dans ma tête, ça ne fonctionne pas de cette façon. Pourquoi ? Je vais vous le dire en deux mots. D'abord parce que je pense que le judaïsme, tel qu'il s'est exprimé, à la fois dans la bouche des prophètes, qui défendaient les plus faibles, hein, et dans la bouche des Chachamim, des sages de la Gemara, qui étaient toujours pour l'échange de propos même très vifs entre les sages, et qui s'opposaient à toute forme de dictature, parmi eux, des exemples célèbres dans le Talmud. Donc je pense qu'en son fondement, dans son âme, le judaïsme est démocratique. L'opposition de Samuel au roi, l'avertissement solennel qu'il donne, la royauté deviendra une tyrannie, etc. Je pourrais multiplier les exemples. Il y a, je dirais, un noyau de résistance à la tyrannie dans le judaïsme, ce qui positivement signifie démocratie. Si vous opposez à la dictature et à la tyrannie, vous êtes pour une pluralité d'opinions et pour une discussion et pour des accords, pour arriver à une sorte de consensus. Même s'il est tendu, même s'il y a différentes opinions, mais quand même, on doit faire les choses ensemble, et pas les uns contre les autres. Ça, c'est le premier point en ce qui concerne le judaïsme. En ce qui concerne la démocratie, étant donné que son, je dirais, l'âme de la démocratie, c'est justement la défense des minorités et non pas la domination de la majorité sur les minorités, alors à ce moment-là, là où il y a démocratie, les Juifs ont toujours trouvé un espace pour s'exprimer, pour vivre comme selon leurs convictions, ils n'ont jamais pu le faire sous les dictatures. Donc ces deux termes, ils ne doivent pas être opposés, ils se complètent l'un l'autre. Démocratie va nous donner le fonctionnement, si vous voulez, rationnel des institutions. Le judaïsme doit donner une inspiration éthique. Ça doit aller ensemble.
D'accord. Alors, je vais vous poser une dernière question, monsieur le rabbin. Daniel Epstein, répondez-moi vite, parce que là, on est en train de dépasser un peu le temps.
Ouais.
Comment vous voyez les choses maintenant ? Là, hier, ils ont adopté la limitation du principe de raisonnabilité. Comment on peut éviter une crise existentielle, une crise constitutionnelle ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a quand même 500 000 personnes qui sont descendues dans la rue.
Bien sûr.
Et des militaires qui ne veulent plus aller à l'armée.
Oui, exactement. Donc, on ne peut pas éviter la crise. Et vous savez, la crise, ça se dit en hébreu, machber.
Machber,
oui. C'est aussi la naissance. La crise a un côté extrêmement pénible, difficile, dangereux, très dangereux même en Israël. Par ailleurs, elle peut être l'occasion d'une réflexion en profondeur et de voir ce qui ne marchait pas jusqu'à présent et qui a permis que cette chose abominable se produise. Donc ça doit être l'occasion d'un examen de conscience individuel collectif. Pikouach nefesh, exactement. Et j'adresse un appel solennel aux Juifs français. Ils ne peuvent pas rester observateurs dans cette crise. Ça nous concerne tous. Nous sommes un peuple qui dépasse les autres. Bon, donc il y a une responsabilité. Si le judaïsme français reste silencieux, ça signifie qu'il est complice.
Il y a des gens qui parlent quand même.
Je sais qu'il y a des gens qui parlent, mais ils doivent être plus nombreux, leur voix doit être entendue, et ils doivent s'exprimer pour l'amour d'Israël. Par amour pour Israël, par amour pour notre peuple, par amour pour eux-mêmes, tout simplement, puisque c'est le sort du peuple juif dépend quand même dans une large mesure
d'Israël.
De ce qui se passe ici. Donc, ils doivent aussi assumer leurs responsabilités. Je leur demande du plus profond de mon cœur. Et ici, vous savez, vous demandez comment, où est-ce que ça va aller. Ben, la crise, elle est aiguë. Et nous sommes uniquement au premier acte de cette tragédie. Il y aura d'autres actes. Et je fais confiance. Je fais confiance à la fois au peuple juif. Et celui qui nous protège, pour que nous ayons vers le deuxième, troisième et quatrième acte de façon plus sereine et plus, je dirais, apaisée.
Raisonnable.
Voilà.
Ok. Ben, ouais. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Daniel Lipstein, merci. D'avoir participé à notre émission et d'avoir répondu à nos questions. À bientôt merci. Sur Radio Shalom.
Au revoir.
Au revoir. Bonne semaine à tous et à toutes. C'était Paul Ouzimi, Erson à l'antenne avec Chronique pour la paix.